Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Lénaïque Monnier.
Cette décision, qui n'est pas juste, va être frappée d'appel. Et il y aura un nouveau procès.
Maître Antonin Lévy, avocat de François Fillon, l'ancien Premier ministre, lourdement condamné, 2 ans de prison ferme et 3 avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Le couple fait appel. Soignants et médecins, à nouveau dans la rue demain, nouvelle journée pour l'hôpital. Les revalorisations salariales promises sont jugées insuffisantes. Le président de la République verdit son discours au lendemain de la vague écolo au municipal. Emmanuel Macron annonce 15 milliards d'euros supplémentaires pour le climat.
Le temps est venu de faire, d'agir. Et ce temps d'action concrète, c'est celui que votre travail inaugure.
Dans ce journal également, l'histoire de ce couple qui a coupé le chauffage et mené une vie d'enfer à son locataire infirmière pour la pousser dehors par peur d'attraper la Covid. Ce couple de Montpellier était devant le tribunal. On parlera foot également à la fin de ce journal. Direction l'Olympique de Marseille, le club négocie des salaires à la baisse pour les joueurs phares de l'équipe et ils ont dit oui à l'image de Dimitri Payet.
Il fallait aujourd'hui que les joueurs fassent des efforts et je me suis dit que voilà, qui de mieux que moi pour montrer l'exemple.
Comme chaque soir à 22h20, rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil, son invité Luca Allegri, président directeur général du Bristol. Avec cette question ce soir, pourquoi les palaces parisiens sont-ils toujours quasiment tous fermés? Juste avant, Didier Hameau de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Sans oublier évidemment les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi pour la météo à la fin de ce journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Il demandait à rouvrir, le procès a relancé les débats. Le couple Fillon n'a pas été entendu. François et Pénélope Fillon, jugés coupables, ont été lourdement condamnés. 2 ans de prison ferme, 3 avec sursis en plus pour l'ancien Premier ministre pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Salomé Legrand, vous avez assisté à l'audience. Le tribunal correctionnel de Paris est donc passé directement à la case jugement.
Et oui, après un mot tout juste pour dire qu'elle avait bien reçu les conclusions de la défense, la présidente du tribunal, mine fermée, a détaillé les motifs de culpabilité des époux Fillon durant plus d'une demi-heure. Les contrats de madame n'avaient, je cite, aucune consistance, ne répondaient à aucun besoin de la transmission de courrier tout au plus. Quant à son activité auprès de Marc Joulot, le suppléant de François Fillon, ni le dossier ni l'audience n'ont permis de mettre à jour les tâches effectuées. Face aux 3 prévenus, droit comme des i, comme figé à la barre, la juge poursuit. L'ancien Premier ministre a fait prévaloir son intérêt personnel sur l'intérêt commun et s'est ainsi enrichi personnellement tout en contribuant à éroder la confiance des citoyens, d'où les peines lourdes, conformes, voire au-delà des réquisitions. 5 ans de prison dont 2 fermes pour François Fillon, 3 ans avec sursis pour son épouse comme pour Marc Joulot, inéligibilité pour tous. Le couple est aussi condamné à 375 000 euros d'amende chacun et à rembourser la totalité des sommes versées par l'Assemblée nationale, charges sociales et patronales comprises, un peu plus d'1 million d'euros.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Et puis réaction politique chez les Républicains. François Fillon était condamné d'avance, estime Bruno Retailleau. Un trouble pour l'indépendance de la justice, dit Valérie Boyer. Christian Jacob, lui, se dit stupéfait. C'est un moment qui était très attendu. Le gouvernement annonce une enveloppe de 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Mais pour les syndicats, le compte n'y est pas du tout. Médecins et personnel soignant ont donc prévu une nouvelle journée de mobilisation pour l'hôpital demain. Les avancées du Ségur sont jugées insuffisantes. Écoutez plutôt le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, Christophe Rudhomme.
Le retard pris ces dernières années, la situation de l'hôpital nécessite aujourd'hui un véritable choc. Donc il faut des sommes très conséquentes. Et comme en plus rien n'est avancé sur les 2 autres revendications qu'on soutient en commun, à savoir des effectifs, c'est-à-dire des recrutements et surtout l'arrêt des plans de restructuration, ça ne suffit pas. Hein.
Vous attendiez combien ?
On attendait ce qui permettrait de revaloriser les grilles de 30%. Enfin, on a un certain nombre à avoir chiffré, mais on se rejoint largement là-dessus, à une première enveloppe d'un minimum de 15 milliards. Alors là, on est à 6 milliards plus 300 millions. Vous voyez bien qu'il y a encore une grosse marge.
Donc la mobilisation continue ?
Ah ben la mobilisation continue, elle va même s'amplifier. Il y a une colère qui est énorme, hein. Et qui monte. C'est-à-dire que là, non seulement on va se mobiliser demain, mais si rien ne bouge, on a déjà prévu une mobilisation le 14 juillet, et ça ne sera pas à l'invitation de M. Macron. Hein.
Christophe Prudhomme avec Mathieu Charrier pour Europe 1. 500 000 morts, un seuil symbolique vient d'être franchi pour le coronavirus et le pire est à venir en l'absence de solidarité mondiale. Avertissement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui prévoit d'envoyer une équipe en Chine pour déterminer l'origine du virus. Au lendemain des municipales, Emmanuel Macron a affiché son ambition écologiste ce matin. Il a reçu dans les jardins de l'Élysée les Français qui avaient été tirés au sort et qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Un discours qui s'est teinté de vert, évidemment ce n'est pas anodin, avec un certain nombre de promesses, 15 milliards d'euros sur 2 ans pour la transition écologique. Le temps est venu d'agir, a déclaré le président. Il retient la quasi-totalité des propositions. Jean-Rémy Baudot, avant de voir quelles sont celles mises de côté, penchons-nous sur les propositions de la Convention retenues à la mi-journée par le chef de l'État.
Parmi ces 146 propositions, on notera le moratoire sur les nouvelles zones commerciales, la rénovation thermique des bâtiments, la promotion des investissements dans les transports propres. Des mesures encore un peu floues, mais de l'argent, un budget de 15 milliards supplémentaires dans les 2 ans sur la transition écologique. Il y a tout de même 3 jokers pour le président, c'est comme ça qu'il les a nommés. 3 mesures de la Convention citoyenne qui ont été retoquées par Emmanuel Macron. Il n'a pas repris la proposition de réécrire le préambule de la Constitution en plaçant l'environnement au-dessus des valeurs fondamentales de la République. Il a écarté la taxe de 4% sur les dividendes, expliquant que cela viendrait freiner les investissements étrangers. Enfin, il a dit non à une mesure particulièrement emblématique et qui a fait débat la semaine dernière, la baisse à 110 km/h sur les autoroutes.
Si on fait ça, je vous l'écris, nos concitoyens qui sont dans les territoires les plus enclavés, qui parfois mettent tous les jours 45 minutes, 1 heure en utilisant les grands axes pour aller travailler, ils vont dire « Ok, leur projet, c'est un projet, il n'y a pas de place pour moi, je n'existe pas ». Et donc je pense que il faut faire maturer ce débat dans la société. Il faut aussi que les gens aient à chaque fois plusieurs options. Mais ne donnons jamais le sentiment à certains de nos concitoyens qu'on les met à l'écart. Et donc je propose de repousser ce débat. Je ne voudrais pas que vous connaissiez le même sort que moi, c'est-à-dire avoir des mois de travail qui s'abîment dans une polémique.
Emmanuel Macron qui se dit prêt à organiser un référendum sur certaines de ces questions. Les autres seront transmises directement au gouvernement ou au Parlement. Pour le président, il y a un enjeu que ces mesures soient rapidement votées, appliquées, comprises par les Français, car moins de 24 heures après une claque écolo au municipal, Emmanuel Macron veut faire de cette convention citoyenne la base de son virage écologique.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique et Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, était l'invitée d'Europe 1 ce soir. Elle aussi est revenue sur la proposition des 110 km/h sur l'autoroute qui n'a pas été retenue. Cette mesure ne suscitait visiblement pas l'adhésion des Français. Voilà ce qu'elle a commenté. C'est un hasard du calendrier, mais cette fermeture de Fessenheim intervient ce soir au lendemain de la vague verte au municipal. Clap de fin après 43 ans de service pour la centrale nucléaire. Le 2e réacteur va être arrêté et tout à l'heure. Il faudra ensuite tout démanteler. Des travaux qui vont durer jusqu'en 2040. C'était en tout cas l'un des combats des écologistes. Les Verts qui ont conquis plusieurs grandes villes comme par exemple Strasbourg, pas très loin d'ailleurs géographiquement de la centrale, mais aussi Lyon, Marseille et Bordeaux. C'est là que nous nous rendons ce soir. À quoi vont ressembler ces villes gouvernées par les écolos? Les futurs maires ont déjà la tête dans les dossiers, comme à Bordeaux où Pierre Urmic, dans l'opposition, depuis 25 ans est devenu maire hier soir. Stéphane Place, Pierre Urmic a déjà quelques projets en tête.
Oui, déterminé à appliquer son projet, Pierre Urmic compte par exemple et très vite freiner les ardeurs des promoteurs immobiliers ici à Bordeaux où les constructions se multiplient pour répondre à une demande très forte.
L'urbanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui à Bordeaux, qui a abouti à cette bétonisation outrance de la ville, c'est terminé. Désormais, on ne pourra plus construire sur nos derniers espaces de nature. C'est pour ça qu'on va décréter le zéro artificialisation des sols. Il faut construire la ville sur la ville, quoi. Sur ce qui est déjà artificialisé, déjà imperméabilisé.
Préserver les espaces verts, réduire encore la place de la voiture, recruter des policiers municipaux. Pierre Urmic espère également se débarrasser du stade Matmut, sortir du contrat de partenariat public-privé et vendre l'équipement au club des Girondins de Bordeaux.
Je vais essayer de le vendre. Je vais d'abord casser le PPP qui nous unit à SBA, c'est-à-dire à Vinci et Faya. Et après, oui, je considère qu'il est naturel que tel équipement soit à la charge de son bénéficiaire plutôt que de la collectivité jusqu'en 2045. Et je suis persuadé que le club peut être intéressé.
Et puis partons du principe que la commodité des uns, c'est la pollution des autres, dit-il. Le prochain maire écologiste de Bordeaux est opposé au maintien de la navette aérienne Bordeaux-Paris puisque les deux villes sont reliées par le TGV en 2h04 de trajet.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
Europe 1, le journal de la nuit. Lénaïque Monnier.
Nous en venons à ce couple de propriétaires qui était devant le tribunal aujourd'hui à Montpellier, accusés d'avoir tout fait pour se débarrasser de leur locataire. Une locataire infirmière qui vivait juste en dessous de chez eux et dont ils craignaient qu'elle les contamine. Il lui aurait même coupé l'eau chaude. Pierre Herbulot a suivi ce procès et malgré l'émoi qui a provoqué cette affaire, le couple a été relaxé. Ses explications avec Pierre Herbulot donc pour Europe 1.
S'il y a eu harcèlement, c'est le plus court depuis la création. L'avocat de la défense s'est permis un brin d'ironie en démontant le dossier d'accusation à moitié vide. Des coupures d'électricité intempestives, elles ont été constatées aussi chez les propriétaires. Des douches froides, le ballon d'eau chaude n'a pas supporté l'arrivée des quatre membres de la famille de Mélina, l'infirmière. Une tentative d'enfumage au pot d'échappement, une vidéo montre la voiture loin d'une fenêtre, au demeurant fermée. Il y a bien eu le portail laissé ouvert qui a permis aux chiens de s'échapper et quelques noms d'oiseaux, mais seulement contre la famille de l'infirmière. Elle s'agite sur son banc quand le président lui pose la question. En fait, ça n'a pas de rapport avec votre métier. Pas directement au début, concède-t-elle, avant de rappeler qu'elle a tout de même fini par déménager. 10 minutes de délibération suffisent, pas de condamnation. Mélina ne cache pas sa rancœur.
C'est honteux, ça laisse porte ouverte à beaucoup de choses. On a passé énormément de temps, on y a laissé beaucoup de choses, la santé aussi. Donc je trouve que des fois la justice n'avait pas bien faite, simplement.
Pour mettre le grès, l'avocat de la défense, la justice a tout simplement pris le dessus sur l'emballement médiatique.
Comme je l'ai dit, on était tous derrière nos héros. Et quand on a cru qu'un de nos héros était chassé, il a fallu abattre le méchant. Mais il n'était pas méchant. C'est un petit conflit de voisinage qui n'aurait peut-être même pas mérité un contentieux devant le tribunal d'instance.
Le couple de retraités, chemise à fleurs assortie, ressort du tribunal tout sourire. L'infirmière, elle, songe à faire appel.
Pierre Herbulot, envoyé spécial d'Europe 1 à Montpellier. L'actualité à l'étranger, la justice allemande s'attaque aujourd'hui à une affaire tentaculaire, une affaire de pédophilie sur Internet. À l'automne, les enquêteurs pensaient avoir identifié 70 suspects. Ils seraient en réalité 30 000. La justice les soupçonne d'avoir maltraité et abusé d'enfants pendant des années. Certains sont soupçonnés d'avoir partagé des contenus en ligne. Les autorités disent vouloir sortir de l'anonymat, les pédophiles et ceux qui les soutiennent. Et puis on l'apprend ce soir, un juge fixe au 8 mars 2021 la date possible des policiers impliqués dans la mort de George Floyd. Mais ce juge menace de le faire se tenir ailleurs qu'à Minneapolis, lieu des faits, pour dépassionner les débats. Les sports à présent, c'est suffisamment rare pour qu'on raconte cette histoire. Une star de foot qui baisse son salaire, ça se passe à Marseille. Alors on le sait, les finances du club sont plutôt mal en point après des mois d'arrêt de match. Le numéro 10, Dimitri Payet, a dit vouloir montrer l'exemple à Simon Rubin. Il accepte de diviser son salaire par deux dès la saison prochaine.
Oui, alors on parle quand même d'un salaire à 500 000 euros, donc divisé par deux, et une autre baisse est même prévue la saison suivante, baisse de 30%, et puis le joueur renonce également à certaines de ses primes. Dimitri Payet qui veut ainsi donner l'exemple.
Le club m'a donné, aujourd'hui j'ai envie de lui rendre. Mon geste a commencé à germer dans ma tête quand le président a commencé de parler de la phase 2, qu'il fallait aujourd'hui que les joueurs fassent des efforts, et je me suis dit que voilà, qui de mieux que moi pour montrer l'exemple.
Et l'OM ne veut pas s'arrêter là. Outre Payet, le gardien Johan Pelé a fait la même chose, même si là on parle d'un salaire moindre. Désormais, les équipes du président Jacques-Henri Hérault ciblent trois joueurs, trois gros salaires, Florian Thauvin, Steve Mandanda et le néerlandais Kevin Strootman. Alors, les négociations s'annoncent serrées. Si Mandanda, 35 ans, qui est en fin de carrière, pourrait tout à fait accepter de baisser un peu ses revenus, ça semble beaucoup moins évident pour un joueur comme Florian Thauvin, 27 ans, et qui lui a encore plusieurs années devant lui.
Simon Rubin pour Europe 1. Une prolongation ce soir au Paris Saint-Germain. Olivier Chouafny rempile avec les joueuses de la capitale. Son contrat s'arrêtait demain. Il a re-signé jusqu'en 2021. Une saison donc supplémentaire pour le coach parisien. L'ancienne star du foot américain, Colin Kaepernick, lui va faire l'objet d'une série documentaire produite et diffusée par Netflix. Kaepernick, c'est ce sportif à l'origine du genou posé à terre pendant l'hymne américain pour protester contre les violences policières faites aux Noirs. Il en sera le narrateur alors qu'un acteur va l'incarner à l'écran. Ce documentaire évoquera ses années lycéennes et étudiantes. Et puis toujours aux États-Unis, les théâtres de Broadway, une des grandes attractions de New York, qui sont fermés depuis mars pour cause de pandémie, eh bien les théâtres vont rester fermés au moins jusqu'en janvier 2021. Tous les théâtres offrent désormais des remboursements ou des échanges pour les billets achetés pour les représentations prévues avant le 3 janvier prochain. On jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Ça se couvre plutôt sérieusement demain.
Oui, effectivement, les Naïcs, vous la voyez, la dégradation, bien nous aussi. Et je vous confirme qu'elle arrive par l'ouest avec demain matin en Bretagne, sur les Pays de la Loire, le Cotentin, la région parisienne, les Hauts-de-France et même jusque sur les Ardennes. Donc vous voyez, sur un très gros quart nord-ouest du pays, eh bien le ciel sera nuageux avec des averses qui se maintiennent toute la journée. Alors il y aura un nuage, une averse, un rayon de soleil, voilà, ça va être ça toute la journée. Donc pensez à vos parapluies dans ces régions. Sur la moitié sud du pays, au sud de la Loire, il fait très beau. Demain, c'est une journée estivale avec un soleil qui brille dans un ciel bien dégagé. Attention tout de même aussi sur le quart nord-ouest, dans le sud de la France et en Corse. Le vent d'ouest souffle encore demain jusqu'à 80 km/h et le mistral se lève également. Les températures, alors elles sont plutôt agréables le matin avec 10 à 15 degrés en moyenne sur l'ensemble du pays, jusqu'à 21 degrés au bord de la Méditerranée. Et puis comme les dessinés sur la France, côté température aussi, c'est coupé en deux, il fait plus frais au nord avec 18 à 23 degrés en bord de Manche, 22 à 27 sur la moitié nord du pays, 25 à 30 degrés au sud de la Loire et jusqu'à 35 degrés au bord de la Méditerranée.
Et c'était la météo signé Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Il y aura aussi l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Il reçoit ce soir Luca Allegri, c'est le président directeur général du Bristol. Et on va lui poser cette question. Pourquoi les palaces parisiens sont-ils quasiment tous fermés en ce moment ? A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 22h17 sur l'antenne d'Europe 1. Bonne soirée à tous. Comme promis, il est l'heure de faire un point sur la bourse. Et c'est comme tous les soirs avec vous, Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir les Naïcs.
On démarre avec Wall Street qui débute la semaine à la hausse avec Boeing.
Bien, bien, oui, ça monte. Hein. Plus 2,3%. Wall Street, c'est même assez soutenu avec effectivement Boeing qui s'envole de 15%, pratiquement 14,4%. On va en reparler tout de suite. Donc le Dow Jones, plus 2,3%, 25 596 points. Le Nasdaq, en hausse quand même d'1,2%, même si c'est un petit peu moins net. 9 874 points. La fin de semaine dernière avait été difficile avec la situation sanitaire aux États-Unis. Là, Boeing entraîne le marché à la hausse. 194,50 $, plus 14,4%. Après 15 mois d'interdiction de vol suite au crash l'année dernière, le 737 MAX a réalisé aujourd'hui un premier vol d'essai. Le constructeur américain, qui va poursuivre ses tests cette semaine, espère obtenir une nouvelle autorisation de vol prochainement. Et donc, ça fait décoller le titre Boeing ce soir de près de 15%. Les valeurs de technologie remontent aussi. Alors, c'est moins spectaculaire. Apple prend quand même 2,3%, 361,78 $. Microsoft, plus 1%. Intel, plus 1,3%. Facebook, plus 2%, 220,64 $. IBM aussi gagne 2,2%. Les derniers indicateurs sont plutôt encourageants aux États-Unis, des indicateurs assez fermes côté économique, plus fermes que prévu, même du côté de la construction en particulier. Le pétrole, du coup, remonte 39,50 $, le WTI, plus 3,3%. Il avait pas mal baissé en fin de semaine dernière. Et Exxon, le géant pétrolier, gagne 1,6% ce soir. L'euro est plus stable, 1,1240 $ face au dollar.
Et Didier, la Bourse de Paris aussi attaque sa semaine en progression.
Oui, alors moins spectaculaire dans la mesure où on ne gagne que 0,7%, mais 4 945 points, c'est quand même de la hausse. Plus 0,73% sur le CAC 40. Quelques valeurs malmenées ces dernières semaines remontent comme Renault dans l'automobile, plus 5%. Peugeot, plus 2,3%, ou Valeo, plus 1,6%. Ce sont surtout les valeurs industrielles qui avaient beaucoup baissé, qui rebondissent un peu. Mersenne, plus 4% avec Nexans. Vicat, plus 3% dans le bâtiment. Bouygues, plus 3%. Et puis les banques, un petit peu de hausse. Le Crédit Agricole, plus 3,7%. BNP, plus 2,5%. Ou Société Générale, plus 2,8%. Et puis donc le secteur aéronautique, c'est la vedette du jour. Airbus reprend 2,5%, Thales plus 2% et Air France regagne même 3% ce soir à la clôture.
Et exception du jour pour le titre Capgemini qui là, en revanche, perd un peu de terrain.
Oui, le groupe de services informatiques recule de 2,5% et revient sur la barre des 100 €, 100,80 €. Il faut dire que le titre a bien résisté, il a bien résisté à la crise ces derniers mois. Et il a souffert aujourd'hui d'une note d'HSBC qui a baissé son cours, son objectif de cours de 110 à 105 € après un parcours boursier qui a vu le titre doubler de valeur depuis la mi-mars, depuis son point bas de la mi-mars à 50 €. Le titre est remonté donc sur la barre des 100 €. Donc HSBC conseille de souffler un petit peu après ce parcours, ce rebond de Capgemini, donc qui termine en baisse de 2,5% ce soir. Sur les autres places financières, ça monte sur le DAX à Francfort, plus 1,1%, Madrid, plus 1,4%, Milan, plus 1,6%, et donc le CAC 40 en hausse de 0,73%, 4 945 points.
Merci pour ce tour d'horizon, Didier Hameau de boursier.com, et à demain. On passe à l'interview éco comme tous les soirs avec Emmanuel Duteil. L'invité de ce soir, Luca Allegri, c'est le président directeur général du Bristol, le palace parisien. Avec cette question justement, pourquoi les grands hôtels de Paris sont encore quasiment tous fermés?
Bonsoir Luca Allegri.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président directeur général du Bristol. Le Bristol, c'est l'un des plus beaux hôtels français qui se trouve en plein cœur de Paris, à deux pas de l'Élysée pour le situer. Vous ne rouvrez que le 1er septembre. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour rouvrir?
Si vous voulez, c'est le résultat d'une logique économique. Il y a à ce moment des frontières qui sont fermées. Pas plus tard qu'il y a deux jours, le New York Times disait que l'Union européenne n'allait pas ouvrir la frontière aux Américains, aux Russes et à d'autres pays. C'est donc un choix logique. Deuxième point, on avait démarré des gros travaux dans l'hôtel juste avant le confinement. Donc on s'est dit on va profiter de cette période pour aller jusqu'au bout de ces travaux de rénovation. Comme vous pouvez vous imaginer, on peut faire tout le bruit qu'on veut, même si on est à côté de l'Élysée, parce qu'il n'y a pas de clients à l'hôtel. Donc,
parce que pour vous, pour faire très simple, s'il n'y a pas la clientèle américaine, s'il n'y a pas ou très peu de clientèle chinoise ou du Moyen-Orient, ça ne sert à rien d'ouvrir. Il n'y a aucune chance que vous puissiez remplir grâce à la clientèle européenne.
Remplir, non. En plus, vous savez, à partir de la mi-juillet jusqu'à début septembre, c'est toujours très très calme. Parce que les Parisiens quittent Paris et parce que les Européens cherchent plutôt la mer ou la campagne, la montagne. Donc, historiquement, une des périodes les plus calmes de l'année, mis à part les 15 premiers jours de juillet où il y a la Fashion Week, etc. Mais cette année, cette Fashion Week a été annulée, donc tout ça a une certaine logique.
Comment on fait pour tenir quand on va être fermé comme ça pendant 6 mois?
On a décidé de rester avec une toute petite équipe de fermeture. On n'est que 17 personnes et tout le monde au chômage partiel. Par contre, nous avons fait à la fois le maintien des emplois et aussi le complément des salaires.
Mais ces aides vous suffisent à pouvoir passer une crise si historique, puisque être fermé pour un établissement comme le vôtre pendant 6 mois, c'est quand même gigantesque comme aventure.
C'est clair que c'est une période très très difficile. Nous avons la chance d'appartenir à un groupe qui nous soutient.
Est-ce que vous avez déjà une petite visibilité pour votre réouverture?
Ah oui, oui, tout à fait. Quand on a communiqué officiellement qu'on allait rouvrir le 1er septembre, on a eu je dirais presque une avalanche d'emails, d'appels téléphoniques de nos clients réguliers. Ça a été vraiment quelque chose qui nous a profondément touchés.
Vous allez donc rouvrir, mais tout le monde le dit, le transport aérien va mettre sûrement 2 ans à se remettre à la normale. Il va y avoir beaucoup moins de voyages d'affaires, ce qui vous permet également de vivre généralement. Est-ce que vous allez devoir baisser les prix?
Non, c'est pas quelque chose. Vous savez, nous, on offre une prestation de très, très haut niveau. Baisser les prix serait pas vraiment la solution. On va sûrement maintenir l'activité partielle pour l'hôtel encore pendant quelques mois et essayer en fait de jongler entre l'activité partielle et tous les congés payés, les jours fériés, les RTT, les heures supplémentaires qu'on a cumulées. On a gardé tous les CP, on rouvre en septembre de façon progressive.
Qu'est-ce que cette crise va changer dans votre activité?
On cherche de plus en plus de personnalisation, du sur-mesure, de créer des expériences uniques. C'est vraiment sur l'individualisation, quoi.
Mais pour vous, la destination Paris va rester une destination phare. De ce que j'entends, de ce que vous dites, vous me paraissez quand même plutôt confiant sur votre capacité à revenir assez vite à la normale.
C'est peut-être pas le mot, mais peut-être le dernier trimestre de l'année, ça va être encore difficile, peut-être le premier trimestre de l'année prochaine, mais après, ça va reprendre. Paris est une ville magnifique qui offre énormément de choses. Nous aussi, on devient une destination, non? Voilà, je pense que ça va revenir, quoi. C'est évident, il faut qu'ils arrivent à trouver un vaccin pour rassurer une certaine clientèle. Mais nous, on a tout mis en œuvre pour que les employés se sentent bien pour revenir au travail et que les clients se sentent bien en sécurité pour revenir au Bristol.
Eh bien, on espère que ça va se passer comme ça. Un grand merci à Luca Allegri, le PDG du Bristol, donc l'un des plus beaux palaces de la capitale, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. À demain. En effet, d'ici là, on retrouve votre interview en intégralité sur notre site europe1.fr. 22h quasiment 27, vous restez avec nous, puisque dans un instant, on va jeter un œil sur la une de vos journaux de demain. À tout de suite. Et voici donc ce que vous pourrez lire demain dans vos quotidiens des journaux. Vous allez l'entendre tous très vert. L'humanité se penche sur la gauche d'après. À la une du quotidien communiste, ces jeunes qui ont défilé pour le climat tout l'hiver et qui rêvent d'un monde plus vert. Justice climatique, justice sociale, titre Luma. À la poursuite du diamant vert, ça c'est le titre de Libération. À la une, Édouard Philippe et Emmanuel Macron marchant dans une forêt qui pour le coup ressemble à s'y méprendre à une jungle. Au lendemain d'une victoire historique de l'écologie au municipal, le chef de l'État a annoncé qu'il reprendrait la grande majorité, nous dit le journal, de ces mesures proposées par la Convention climat. Emmanuel Macron est dans le vert du temps, nous raconte le quotidien dans ses pages intérieures. On parle écologie aussi à la une de La Croix demain matin. Le chef de l'État, le poing serré, étant une sous ce titre, aiguillé vers l'écologie. Les élections municipales sont passées par là. Dans son édito, Guillaume Goubert écrit, je cite, « Quelquefois, s'agissant de l'écologie, on a le sentiment que l'on pourrait inverser la formule en la modifiant un rien. On en parle toujours, mais on n'y passe jamais. Les discours s'empilent les uns sur les autres, mais les décisions n'apparaissent jamais à la hauteur de l'enjeu, du moins jusqu'ici. » Et notre confrère de conclure, il s'agit maintenant de passer à l'action. Bref, vous l'aurez compris, quasiment toute la presse nationale parle écologie dans vos journaux demain. Thèmes qui sont d'ailleurs également en une, que ce soit du Figaro ou bien encore du Parisien. Autre choix éditorial, cette fois-ci dans la presse locale, direction le Dauphiné qui met à sa une les époux Fillon masqués au tribunal correctionnel de Paris. Sous la photo, ce simple titre condamné. Dans les échos, l'Europe ne rouvre pas ses frontières aux États-Unis. C'est à lire dans ces échos demain. Les États-Unis de l'Union et de l'espace Schengen vont rouvrir le 1er juillet leurs frontières aux voyageurs d'une quinzaine de pays, dont la Chine, à condition qu'elle joue la réciprocité. La situation épidémiologique est jugée bien trop mauvaise aux États-Unis à ce stade, alors qu'on a appris ce soir que l'OMS s'orientait, elle, plutôt vers une enquête vers la Chine pour savoir d'où venait le virus, la Covid-19, qui a brouillé les pistes médicales pendant des mois et des mois de confinement. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouvez demain dans vos kiosques. Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1 et nous vous retrouvons Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Lénaïc.
Vous accompagnez les auditeurs d'Europe 1 évidemment tout au long de la soirée. On le rappelle, ça se passe au 39-21.
Exactement et nous on se retrouve tout à l'heure pour le flash à 23h Lénaïc.
Avec plaisir, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.